Suivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
16h02 sur Radio Territoria, merci si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours à Montpellier en direct du 84e congrès HLM depuis le stand du gouvernement qui nous accueille avec cette nouvelle émission diffusée sur Radio Territoria. Émission consacrée au système d'information des aides à la pierre, le SIAP, la plateforme numérique unique pour le financement et le conventionnement des logements sociaux ainsi que le pilotage de la politique de production de logements abordables. Après plus d'un an d'exploitation, où en sommes-nous? Quel est son avancement? Quelles sont ses ambitions? Pour y répondre, quatre invités à mes côtés que je m'empresse de suite de vous présenter. Christine Bordier, bonjour.
Bonjour.
Chef du bureau des systèmes d'information Habitat Construction, direction de projet du SIAP, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nadia Haït-Braham, bonjour.
Bonjour.
Chef de projet module délégataire, responsable du bureau Territoire et Habitat. Adil Boustan, bonjour.
Bonjour.
Chef du produit InfoSIAP, également à la direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages pour le ministère. Et Jean-Louis Bonnet, bonjour.
Bonjour.
Chargé d'études économiques à l'USH. Ce petit rappel, si vous nous écoutez depuis ce matin, eh bien, vous avez la possibilité de réagir à chacune de nos émissions. Et pour ce faire, eh bien, vous pouvez poser directement vos questions. Et Hélène Parmentier, bonjour. Chargée de mission à la sous-direction territoire et usagers au sein du ministère chargé du logement. C'est avec vous qu'on fera le point justement sur les différentes questions qui seront posées tout au long de cette émission à nos différents invités. Cette première question, elle s'adresse à Christine Bordier. Vous êtes donc maître d'ouvrage du SIAP. Est-ce que vous pouvez nous présenter la plateforme SIAP tout simplement et surtout ses objectifs?
Oui, bien sûr. Donc le SIAP, le système d'information des aides à la pierre, c'est d'abord et avant tout une plateforme numérique qui est dédiée au financement et au conventionnement APL des logements sociaux. Donc elle doit permettre de piloter cette politique de production de logements sociaux. Et sa première mission, c'est de suivre l'intégralité d'un projet de logement social, depuis l'idée de construire un logement social jusqu'à sa démolition et en passant par les diverses étapes de la vie d'un logement, notamment sa rénovation. Donc cette plateforme remplace les anciennes applications Galion et EcoloWeb. Mais sa grande différence par rapport aux anciens outils, c'est qu'elle est ouverte. C'est une plateforme numérique connectée à son écosystème avec les bailleurs sociaux, avec les collectivités, avec les services de l'État et qui a une conception modulaire. Donc au travers du SIAP, on réalise une dématérialisation complète du processus du financement et du conventionnement APL. On simplifie tout le processus de renseignement des informations pour la création des opérations de logement social. Et on permet la réduction du temps passé dans ces process. Et on permet de fiabiliser les données. Et on offre enfin et surtout une information uniforme pour tous les acteurs à tout moment pour suivre toutes ces opérations au plus près.
Et après une année d'exploitation de la plateforme, est-ce que vous pouvez nous partager tout simplement un bilan chiffré?
Oui, alors la première année d'exploitation, c'était donc la mise en service du SIAP, a été satisfaisante. On a réussi à programmer toutes les opérations qui étaient prévues en 2023. Même si l'année était difficile conjoncturellement pour le logement social, le SIAP a assuré sa mission d'application numérique. On a réussi en 2023 à programmer au travers du SIAP 82 000 logements, opérations de logement qui ont été engagées, 30 000 opérations de logement, opérations de rénovation de logement. Et puis, à l'ouverture, nous avions 2 000 utilisateurs. 6 mois après, on en avait 5600 et aujourd'hui, on est à près de 7000 utilisateurs sur le SIAP. Donc le SIAP, c'est vraiment maintenant un grand projet informatique qu'on a lancé, qu'on a voulu lancer dès le début avec une association forte de nos utilisateurs en amont du projet et pendant le déploiement du projet. Et ainsi, pour accompagner tous nos utilisateurs, nos 7000 utilisateurs actuellement, on a organisé 25 webinaires pour pouvoir former les utilisateurs. On a permis notamment de former environ 2000 utilisateurs bailleurs qui ont été formés au SIAP. Et ces formations des bailleurs se continuent encore cette année. Et puis, on a, au travers de ces formations, associé toutes les régions de métropole et d'outre-mer. On n'a pas oublié l'outre-mer. On a fait 2 tours de France des régions. Et puis, on fait reposer ce dispositif de formation sur des relais régionaux qui sont nos véritables ambassadeurs du SIAP, du système d'information.
Profitons de votre présence pour faire un point d'étape. Mais est-ce que vous pouvez nous faire un point, justement, sur l'avancement du projet en lui-même ?
Oui, bien sûr. Pour faire ce point, on continue à faire monter en puissance le SIAP. Et je vous propose de développer 5 points sur ce sujet. L'amélioration continue, l'écoute utilisateur, l'interopérabilité, la sécurité et l'ouverture. Ce sont vraiment des points qui guident notre travail. Donc en premier point, l'amélioration continue, parce qu'on inscrit vraiment le SIAP dans une logique d'amélioration continue, dans une méthode agile, pour être en permanence en lien avec nos utilisateurs. Et on a mis en place un chantier spécifique pour réduire les anomalies, les irritants, et améliorer en continu la plateforme SIAP. Ça fait aussi partie de l'amélioration de la sécurité doit faire partie de cette amélioration. Donc on a investi notamment en période de pré-JO et JO dans la sécurité de notre SI. Et on a continué à livrer des améliorations qui vont redevenir un peu plus importantes à la fin de cette année.
Et on parle aussi d'une écoute des utilisateurs le plus possible.
Tout à fait. Donc le deuxième point important pour nous, cette écoute des utilisateurs, on a pour ambition d'être le plus possible à l'écoute de ceux qui utilisent le SIAP. Pour les mobiliser à la fois dans la conception et dans l'amélioration du SIAP et de ses modules. On y reviendra après avec mes collègues. Et on a lancé une démarche d'amélioration des processus du SIAP sous la forme d'ateliers qui ont associé les utilisateurs dans de la co-construction des parcours pour les réviser et pour sortir à la fin de cette année une nouvelle version majeure du SIAP qui sera la version 2 après des ateliers qui se sont finis fin août.
Alors le SIAP, il est aussi interopérable, ça veut dire quoi ça concrètement ?
Interopérable, ça veut dire qu'on peut s'interconnecter à tout l'environnement numérique qui est autour du SIAP. Donc ça permet de faciliter le renseignement des données qui proviennent d'autres applications, d'applications tierces. Et pour ça, donc on a des travaux en cours pour réaliser des API, alors ce qu'on appelle des API, des interfaces d'échange entre ordinateurs, en fait, qui sont développées à destination des délégataires, des aides à la pierre et des bailleurs. Et on a aujourd'hui l'API délégataire qui est prête, et celle des bailleurs qui est en cours de réalisation, de conception. Et on aura sur le salon ce jeudi une démonstration de cette première étape d'API pour les bailleurs avec l'éditeur Sepia qui édite le logiciel Léon et qui permettra de voir concrètement ce qu'a donné cette preuve de concept développée par Sepia pour s'interconnecter au SIAP.
Et vous poursuivez vos actions, que ce soit en matière de sécurité ou de performance ?
Oui, c'est effectivement notre quatrième point aussi important. Hein. Les actions en matière de sécurité, c'est pas très visible pour nos utilisateurs, mais ça nécessite des travaux techniques importants et qui sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement du système.
On parle d'intégration aussi d'InfoSIAP et du module délégataire.
Oui, juste un dernier point, et on l'a déjà un peu abordé, mais c'est la volonté d'ouverture du SIAP dans nos priorités. On veut être ouvert à notre écosystème en apportant à nos utilisateurs des services à forte valeur ajoutée. Et deux de ces services, justement, à forte valeur ajoutée, ça va être mes collègues qui vont les présenter, c'est l'intégration d'InfoSIAP, donc le système qui permet de visualiser, de télécharger les données du SIAP, et le module délégataire qui voilà, qui va permettre aux collectivités d'intégrer leurs aides dans le SIAP.
Alors, Nadia Abraham, vous êtes chef de projet du module délégataire, justement, c'est le sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce nouveau module délégataire et nous expliquer surtout comment est-ce qu'on y accède ?
D'accord. Le module délégataire, c'est le dernier venu sur la plateforme SIAP. Avec un objectif vraiment très clair vis-à-vis de l'écosystème, c'est de proposer un guichet unique, permettre aux bailleurs d'une part de formaliser l'ensemble de leurs demandes de subventions, que ce soit au titre des subventions État, des produits financés par l'État, ou des subventions apportées par les collectivités locales et notamment donc les délégataires. Et comment y accéder ? Eh bien, c'était un objectif très clair dès le départ. Il s'agissait de proposer le même environnement. Donc, c'est le SIAP, c'est un environnement qui leur est familier, avec l'ajout d'un onglet module délégataire qui permet aux délégataires d'administrer leur modèle d'intervention sur leur territoire et aux bailleurs de formaliser leur demande de subvention directement dans le module en même temps qu'ils demandent les aides État.
Oui, donc il est accessible à tous les utilisateurs.
Effectivement, on a fait le choix de le rendre visible de tous les utilisateurs. Je vous expliquerai un peu plus loin la stratégie de déploiement, mais effectivement, c'est le cas.
Et on va en parler, ne vous inquiétez pas. Mais surtout, peut-être avant, comment est-ce que vous avez procédé à la construction de cet outil ?
Alors, pour y procéder, on a commencé à travailler fin d'année 2023, avec quelques délégataires volontaires et quelques bailleurs volontaires, parmi lesquels quand même des gros délégataires comme Paris, comme Marseille, comme Nantes. Voilà, je citerai que ceux-là parce que c'est ceux-là qui me reviennent en tête là. Et par ailleurs, des bailleurs comme ICF La Sablière ou Nantes Habitat, je ne me rappelle plus les noms, mais voilà. Et avec la méthode agile, nous avons fait des ateliers réguliers avec remontée des besoins. On produisait des fonctionnalités, on revenait en atelier pour les montrer, on ajustait les fonctionnalités en fonction des remontées, jusqu'à ce que le produit soit utilisable et fonctionnel. La première version a été déployée le 12 septembre et est opérationnelle depuis cette date-là.
Alors justement, derrière, c'est quoi la stratégie de déploiement ?
Donc, on a préféré faire par phase pour vraiment prendre le temps. Il faut savoir qu'actuellement, on recense 116 délégataires et 116 modes de fonctionnement totalement différents. Et donc, ceux qui font partie de l'équipe métier, on a une dizaine de délégataires et une dizaine de bailleurs qui participent au quotidien. Quelques-uns ont préféré partir dès la première phase, donc au déploiement du 12 septembre, qui ont déjà paramétré leur modèle et qui ont déjà instruit quelques opérations, avec l'objectif d'embarquer dans la deuxième phase, dès le mois d'octobre, d'autres délégataires et d'autres bailleurs qui sont dans l'équipe métier, mais aussi des nouveaux qui n'en ont jamais entendu parler du module, pour avoir un regard neuf et continuer à améliorer le produit, toujours dans le cadre de la démarche d'amélioration continue dont parlait Christine tout à l'heure, avec l'objectif de faire en sorte que ce module-là, ce soit un peu un module consensuel sur l'ensemble des 16 délégataires. Donc, on fera par phase, on intégrera au fur et à mesure des bailleurs jusqu'à ce qu'on espère une généralisation un peu plus large.
Et finalement, quel bilan vous faites de cette première phase de déploiement ? Et surtout derrière, quelles vont être ensuite les étapes à venir ?
Les étapes à venir, donc on s'adosse systématiquement au déploiement du SIAP. Il faut savoir que le SIAP déploie une nouvelle version chaque mois et on en profitera chaque mois pour déployer de nouvelles fonctionnalités et en intégrant par phase de nouveaux délégataires. J'ai déjà d'ores et déjà beaucoup de candidats pour vraiment utiliser l'outil pour l'instruction de leurs aides et avec l'objectif d'y aller pour un meilleur accompagnement, d'y aller vraiment par étapes et un suivi qualitatif des candidats. Et je profite de cette audience pour inviter les délégataires intéressés à nous rejoindre dans cette aventure.
Voilà, et puis il y a une adresse d'ailleurs internet, hein, on peut la communiquer. La communiquer, c'est territoire au pluriel -habitat@development-durable.gouv.fr. Voilà, comme ça il y a toutes les infos là-dessus et c'est absolument parfait. Adil Boustan, en tant que chef de projet du module InfoSIAP, juste simplement, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est InfoSIAP concrètement ?
En effet. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. La DHUP, en collaboration avec la direction du numérique, a créé et réalisé le produit numérique InfoSIAP, guidé par les besoins des utilisateurs et par la création de valeur. Qu'est-ce qu'InfoSIAP ? InfoSIAP est un module de pilotage des données de la plateforme SIAP. Il a été ouvert aux services instructeurs ainsi qu'aux instances de pilotage en janvier 2024 et sera progressivement ouvert aux bailleurs cet automne. Notre ambition est d'offrir un lieu unique de référence pour retrouver toutes les données relatives au logement abordable, brut et agrégé, tout en étant facilement accessible avec un accès aisé et sans couture depuis la plateforme SIAP.
Ok. Et les principales fonctionnalités ?
Les principales fonctionnalités dans InfoSIAP. Donc, InfoSIAP met à disposition ces données sous forme de tableaux de bord exportables et ponctuellement illustrés par des graphiques. InfoSIAP est constitué de 4 rubriques. Une première rubrique, tableau de suivi, qui dispose de tableaux de bord incluant des suivis de production de logements locatifs sociaux, des décisions d'octroi d'aide, des suivis financiers. Une deuxième rubrique, données des Outre-mer, est constituée de tableaux de bord sur les données de ces territoires exclusivement. Une troisième rubrique qui s'intitule bilan permet à nos utilisateurs de suivre des bilans de production de logements locatifs abordables des années de gestion précédentes. Enfin, une quatrième rubrique données en rue permet d'analyser des données des logements reconstitués issus du système YODA de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU. A noter également, donc, nous travaillons actuellement sur une cinquième rubrique qui correspond aux données des délégataires du module délégataire qui a été présenté précédemment par Nadia Itbaraham et qui sera disponible à partir de novembre 2024 dans InfoSIAP.
Alors, vous êtes accompagné également de Jean-Louis Bonnet, chargé d'études économiques à l'USH, pour le rappeler. Vous pouvez nous expliquer en quoi finalement ce module décisionnel facilite votre travail au quotidien.
Bonjour, oui, effectivement, ça le facilite à essentiellement deux niveaux. C'est d'une part une centralisation de l'information qui est très précieuse et très appréciable parce qu'on y retrouve à la fois des données sur la programmation, mais aussi sur la rénovation énergétique, la réhabilitation et l'ANRU. Et aussi, ça permet d'avoir des sorties à deux niveaux, les tableaux de bord dont a parlé Adil, qui sont préfabriqués, qui sont en libre accès, en libre utilisation. Et aussi, tout aussi important, même plus, ce sont ces exports de données détaillées à l'opération qui permettent effectivement de reconfigurer à la rigueur des sorties, comme on l'entend, pour répondre à différents besoins géographiques ou de direction métier ou autre. Que ce soit l'Union ou les fédérations, on a d'assez gros consommateurs. Et en matière de suivi de la rénovation énergétique, de l'intégration des données en rue, que ce soit situé dans un lieu unique, fiabilisé et harmonisé, c'est une vraie nouveauté, un vrai gain de temps qui est permis, en plus par un accès facile, simple, gratuit, et que la centralisation, on attend aussi quelques évolutions liées, par exemple, au logement intermédiaire et éventuellement à la récupération de l'historique CISAL, fera que ce sera un écosystème vraiment cohérent, uniforme et fiabilisé qui sera très très utilisé et très très appréciable.
Vous l'utilisez depuis quand ?
Oh ben ça fait plus d'un an et même dès le départ on utilisait l'ancien système CISAL qui était déjà ça répondait quand même à pas mal de besoins. D'ailleurs ça, je pense que l'InfoSIAP a permis à capitaliser sur CISAL et même pour l'appropriation des différents partenaires d'ailleurs.
Alors c'est intéressant parce que vous parliez à l'instant d'évolution et justement Adil Boustan, est-ce que vous pouvez nous dire si ça va évoluer InfoSIAP et si oui surtout de quelle manière ?
Donc, comme pour le module délégataire, InfoSIAP évolue régulièrement avec de nouvelles fonctionnalités livrées environ tous les mois. Ces évolutions sont conçues, comme pour le module délégataire, et priorisées en collaboration avec les utilisateurs qui remontent leurs besoins en matière de pilotage et d'utilisation des données. Pour information, donc, nous allons dans ce dernier trimestre publier un nouveau tableau de bord qui permettra aux bailleurs et aux services gestionnaires de suivre les demandes d'acompte. Cette approche permet à InfoSIAP de s'adapter continuellement aux attentes des utilisateurs et d'optimiser leur expérience sur la plateforme. Par ailleurs, donc, comme l'a indiqué M. Bonnet, InfoSIAP s'interconnectera progressivement avec les autres modules du SIAP, comme APILO, qui est le module du conventionnement APL, le LLI en 2025 également, ainsi qu'avec les autres systèmes d'information du logement social, tels que le RPLS. Le but est d'optimiser le pilotage du logement abordable. A noter également un point important que M. Bonnet a indiqué, c'est sur le système d'information décisionnelle CISAL, qui ne sera décommissionné que lorsque toutes les données et fonctionnalités auront été intégrées dans InfoSiap. Objectif prévu pour le premier semestre 2025.
Ok, alors on se projette justement 2025, peut-être avant 2024 avec vous Christine. Vous pouvez nous indiquer les grandes orientations du SIAP pour la fin d'année et puis donc pour l'année prochaine.
Oui, pour la fin d'année, notre ambition majeure vraiment à la DHUP, c'est d'ancrer le rôle de plateforme du SIAP, plateforme interconnectée à tout son écosystème, aux bailleurs sociaux, aux délégataires des aides à la pierre, aux services déconcentrés, et d'ancrer ce rôle de plateforme unique qui donne accès à un bouquet de services finalement. Et pour ça, pour pouvoir augmenter le nombre de services disponibles sur le SIAP, on doit proposer à tous ces acteurs une vision globale et exhaustive du parc social et du parc abordable. Et donc, ça rejoint ce qu'évoquait Adil. On va intégrer notamment les questions de logement locatif intermédiaire en intégrant dans SIAP et dans InfoSIAP les procédures déclaratives liées au logement locatif intermédiaire. C'est aujourd'hui une démarche sur un outil à côté, démarche simplifiée. Donc on intègre ça dans la plateforme. Et puis on envisage aussi d'intégrer d'autres fonctionnalités, d'autres services. Une qui est envisagée, c'est d'avoir un module déclaratif sur le bail réel solidaire, le BRS, pour mieux prendre en compte l'ensemble des logements sociaux et abordables qui rentrent dans l'inventaire SRU notamment. Et tenir compte de toutes les adaptations réglementaires sur le logement social et abordable.
Et j'imagine que vous allez continuer à travailler sur le renforcement de la sécurité, de la performance.
Oui, tout à fait. Ça reste un axe de travail important et un axe de fond. Renforcement de la sécurité, de la performance. Poursuite de l'amélioration continue avec les utilisateurs. J'évoquais tout à l'heure la version 2 du SIAP donc qui va amener un certain nombre d'évolutions ergonomiques qui répondent aux demandes de nos utilisateurs, qui va concerner aussi territorialement l'Hexagone et l'Outre-mer. Et puis les évolutions aussi que l'on envisage sur 2024-2025, ce sont toujours de nouvelles interconnexions, de nouvelles fonctionnalités qu'on développera en fonction des besoins pour répondre aux besoins de simplification des parcours pour nos utilisateurs.
Eh bien, merci à chacune et chacun d'être intervenu, mais ne bougez pas encore parce qu'il y a des questions également des auditeurs et je me tourne vers vous, Hélène, avec la première question peut-être.
Oui, alors nos auditeurs nous demandent quand la version 2 du SIAP sera disponible.
Christine ?
Oui, alors la version 2 est en cours de déploiement. En fait, les premières étapes ont eu lieu, c'était donc les ateliers avec les utilisateurs. Ça nous a permis de configurer en fait à quoi allait correspondre cette version 2. Il nous faut le budget 2025 pour pouvoir la réaliser. Un point important aussi, on ne la sort pas tout de suite parce qu'on est dans une phase de production importante des opérations en cette fin d'année et on ne peut pas cumuler nouvelles versions et phase intense de travail sur le SIAP.
Une autre question, Hélène ?
Oui, peut-être une deuxième question de nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous détailler le mécanisme d'amélioration continue du produit ?
Oui, le mécanisme d'amélioration continue du produit, c'est une équipe spécifique qu'on a mise en place à côté de nos développeurs habituels qui assurent toutes les nouvelles fonctionnalités telles le module délégataire ou les nouveaux services d'InfoSIAP. Une nouvelle équipe vraiment dédiée au traitement des anomalies. C'est vrai qu'on a un certain nombre d'anomalies qui nous remontent aussi parce que on a récupéré l'ancien système, SPLS Galion, qui nous amène encore un certain nombre d'anomalies à gérer. Et donc, toutes ces anomalies sont gérées maintenant par une nouvelle équipe qui permet de répondre à ces besoins des utilisateurs, qui sont des besoins du quotidien, mais qui sont néanmoins importants.
Eh bien, merci Christine d'avoir gentiment répondu à nos questions. Il est bientôt 16h30, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous toutes et tous qui êtes venus sur ce plateau répondre aux différentes questions. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, ici même, sur le stand du ministère chargé du logement, et vous retrouverez le podcast également sur le site de Radio Territoria, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et puis on se retrouve, tiens, dès demain matin, dès 9h30, pour une émission dédiée au SRU et au contrat de mixité sociale. Je vous souhaite une très belle fin de journée et merci de votre fidélité. Salut.
Vivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.